Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
In times of old, the world was full of wonder and magic. But times change.
I'm a mighty warrior!
Morning, Mom!
Hey, birthday boy!
By the laws of yore, I must dub thee a man today. Kneel before me.
That's okay.
I have a gift from your dad. He just said to give you this when you were both over 16.
No way! It's a wizard staff. Dad was a wizard!
What? Your dad was an accountant.
This spell brings him back. For one whole day, Dad will be back.
What?
Back, like back to life? That's not possible.
It is with this.
I'm gonna meet Dad.
En avant, c'est un film d'animation des studios Pixar, réalisé plus précisément par Dan Scanlon. Ça s'appelle Onward en version originale. Les voix originales, justement, c'est Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, notamment Mel Rodriguez, tiens, joli, Ali Wong aussi, Pio Marmaille en VF, notamment. Nam, le pitch en un petit mot. D'en avant.
Le film, c'est le dernier film des duos Pixar, et cette fois, ça nous raconte l'aventure de deux frères qui partent en quête à travers l'histoire de leur pays fantastique pour tenter de retrouver leur père pour une journée.
Retrouver leur père égale récit sur le deuil, Justin, c'est globalement un film que tu as trouvé plutôt sympathique.
Le reproche que j'aurais, c'est plus au niveau de l'univers en lui-même, parce que ça manque un peu d'inventivité, je trouve, par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans d'autres de leurs films, comme Monstres et Compagnie, où vous avez réussi à créer tout un folklore.
Ça date, Monstres et Compagnie.
Ou même, si on sort de Pixar, dans un Disney récent, Zootopie, où vous avez réussi à... Voilà, c'était dans des animaux dans un monde contemporain aussi, mais ils avaient vraiment réussi à adapter ce monde-là au fait que ce soit des animaux. Là, je trouve que c'est un peu paresseux dans l'univers. C'est vraiment calqué... vraiment de manière schématique sur le monde contemporain, plus conte de fées. Par exemple, je pense il y a un personnage de centaure qui est policier, et voilà, il conduit une camionnette de policier, et puis bon, il y a un petit gag, il a du mal à sortir de sa camionnette, il n'y a rien qui est adapté par rapport à sa condition de centaure pour son véhicule.
Oui, c'est vrai.
C'est calqué un peu bêtement, sauf quelques exceptions avec des personnages de fées qui sont des bikeuses, des Hells Angels, il y a quelques fois où des petits moments comme ça. Mais sinon, par contre, au niveau de l'émotion, au niveau de l'inventivité pour ajouter justement la magie dans le film, il y a un dragon qui va arriver à un moment donné du film. La conception, la structure du dragon est quand même assez originale au niveau de l'apparence. Donc dès que la magie arrive, on retrouve un peu d'inventivité, mais après c'est un peu paresseux au niveau de l'univers, malgré que le reste fonctionne.
Après, est-ce que ça serait pas le fait... Moi j'ai paresseux, oui, certainement, t'as raison sur les points que t'as soulevés. J'ai surtout senti que c'était un film principalement destiné aux enfants, avec une ligne directrice qui était bien claire, des systèmes d'identification qui étaient plus urbains par rapport aux petits qui ont peut-être pas des refs fantastiques. Le côté fantastique d'ailleurs est assez peu mis en avant, on va dire, dans les enjeux narratifs du film. Max, c'est un peu ce que tu en as pensé, je pense. C'est un film un peu bonbon, malheureusement, tu n'en avais pas.
Oui, c'est ça. Non, pour moi, effectivement, je te rejoins assez, Robin, là-dessus, d'autant que j'ai l'impression que cette espèce de monde fantastique-là sert un peu à ce qui est souvent mis en avant dans les films Pixar, à essayer de mettre en... faire une espèce de métaphore du monde dans lequel on vit nous, et je trouve, comme disait Justin, que là, dans ce cas particulier, c'est assez paresseux, dans le sens où, en fait, à la grosse différence de pas mal d'autres films, là le monde est vraiment tel qu'on le vit, à part peut-être qu'il va y avoir un centaure de temps en temps, sinon foncièrement je vois pas de différence majeure avec un film qui se serait passé avec des personnages humains comme celui de là-haut. En fait, c'est presque un cousin de là-haut, mais qui marche pas aussi bien, je trouve. Notamment parce que moi, pareil, la narration finalement m'a pas emporté. Je trouvais les effets toujours qualitatifs dans la mise en scène de chez Pixar, mais mais voilà, relativement déjà vu, relativement... J'avais l'impression d'être un peu dans des chaussons dans ce film, là où je trouve que Pixar a la qualité habituelle de nous mettre dans des chaussons tout en nous secouant un peu plus des chaussons magiques d'habitude, là pas trop.
Non. Pour ce film-là, j'ai vraiment senti le schéma classique narratif des films Pixar, à savoir un personnage qui est pas satisfait dans la vie qu'il a, qui aimerait bien que ça change, et puis il va faire toute une quête, il va revenir à son point de départ et découvrir qu'en fait il avait déjà ce dont il avait besoin. Et qui voulait pas la bonne chose en fait. Et là, je trouvais que c'était un petit peu trop voyant, notamment dans la première partie du film. Enfin, moi, j'attendais, bon bah voilà, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ils vont partir, etc. Et au final, quand c'est arrivé, j'ai quand même été plutôt agréablement surpris, parce que ça n'a pas été montré dans la bande-annonce, je crois, mais le coup de la moitié de père qui apparaît. Oui. Et du coup, qui se font des checks du pied, coronavirus free pendant tout le film. moi, je trouvais ça plutôt marrant. Ouais. Et puis, arriver à remplir l'espace avec ce personnage qui est à moitié absent. Pour le coup, moi, c'est une des parties du film que j'ai préférées. C'est le regarder lui faire ses machins dans le fond avec le mannequin désarticulé.
Il est remplacé effectivement par ce mannequin qui a des petits, qui est sujet à vanne. C'est top.
Et oui,
mais ouais, toujours des petites
à chaque fois. Mais c'est toujours la bonne mimique quand il faut au bon moment.
Le coup de la casquette qui tombe quand il y a une espèce de vanne qui fait un peu le poète de la vanne.
Il lève le bras face au El Sangel, alors que pas du tout.
C'est toujours compliqué en plus dans les. Les films Pixar se laissent pas tout le temps aller à la vraie volonté burlesque pure. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée d'avoir un double niveau de lecture. Donc, ça passe souvent par le langage et par le geste pour que ça fasse rire les adultes et les enfants.
Du coup, là, on a un personnage qui est muet de nature. Et c'est vrai que du coup,
c'est la preuve aussi que la dimension burlesque, quand elle est vraiment bien maîtrisée, c'est le meilleur ressort comique possible. Et surtout, c'est le meilleur vecteur d'émotion puisque c'est la scène la plus...
Il y a une scène de danse.
Voilà, la scène la plus belle du film. Elle se joue justement parce qu'il y a une moitié de père qui permet une forme de reconstitution puisque le grand frère se place derrière. Bon, après, c'est de la psychanalyse de
le film joue là-dessus aussi.
Et puis, on disait, voilà, on commence à y arriver un petit peu sur cette double lecture-là, même si la lecture enfant prend beaucoup de place. Je pense que, Clément, tu seras d'accord avec moi, qu'il faut être curieux, il faut creuser pour trouver la qualité un petit peu pour adultes en avant.
Mais on est d'accord que c'est un Pixar mineur, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, ce que je trouve très beau, j'avoue avoir lâché quand même, écrasé quelques larmes tout seul.
Tu m'as dit 15 minutes en pleurs, 2 heures en PLS.
Je pleure très souvent, mais pas très longtemps. Donc, doit y avoir un peu. C'est quand même un peu une usine lacrymale, quand même, ce film. Oui. Et ce que je trouve que vous êtes quand même dur, et parce qu'on voit en fait surtout les points de colle du récit entre une forme de volonté un peu plus Disney de sans cesse vouloir réenchanter le monde. Et le côté beaucoup plus trivial de Pixar. Je veux pas spoiler, mais
tu peux.
Je peux spoiler ?
Tu peux.
Ok. Bah alors, en fait, le film aurait dû se terminer au câlin fraternel. La caméra qui part, on voit très bien que c'est pensé comme un plan final. Sauf que, où est le réenchantement dans ce monde-là ? C'est-à-dire, on a montré un monde où la magie était éteinte.
Oui.
Où il suffit d'un coup de fraternité plus que finalement d'une forme d'union familiale, puisque le but, c'est que Yann se rende compte que ce qui importait, c'était pas la destination, mais le voyage.
Oui, bien sûr.
Et en fait, le film se termine pas là-dessus, il se termine avec une forme de sketch vraiment raté, où on découvre, où à la fin, ça part, la voiture se met à voler, ça a aucun sens. Enfin, à ce moment-là, t'as qu'à faire voler la voiture depuis le début. Enfin,
ce qu'on aurait pu attendre presque un monde tel que celui-ci dans tout le film, en fait.
Ouais, mais là, en plus, c'est une dystopie, moi, un truc comme ça. Moi, justement, il y a tellement une volonté de montrer même une zone un peu des non-lieux, une banlieue pavillonnaire un peu classique, ou même à un moment, ils sont dans une station-service, et les espèces de zones, justement, ce qu'on appelle les non-lieux en géographie, quoi, des endroits où il se passe rien. Ça, c'est assez intéressant dans un monde où la magie quand même opère, mais par touche un peu impressionniste. Là, c'est le grand feu d'artifice, c'est justement la fin un peu Disneyland, et là, pour moi, c'est là où ça fonctionne pas. Alors que quand ça reste... Pardon, excuse-moi.
Non, mais...
Quand ça reste sur le... À l'os, en quelque sorte,
ouais,
sur côté vraiment...
intime.
Un drame presque de chambre, franchement, ça marche. Et ça marche même sur des trucs inanimés. Moi, j'ai pleuré pour le van, quoi. Il y a un suicide de van. C'est exceptionnel.
Gwendoline,
Gwendir, ouais, je sais plus.
Et je suis d'accord sur ce que tu dis par rapport à la magie qui fonctionne quand on est dans l'intime. Je pense à une très très belle scène quand il y a le petit frère donc, qui prend l'apparence du centaure enfin, pour en fait, tromper des policiers qui leur font un contrôle sur la route. Et en fait, il y a une astuce, c'est-à-dire qu'il doit dire la vérité pendant tout l'interrogatoire. Mmh. Dès qu'il dit un mensonge, il retrouve une partie de son apparence. Et donc, à un moment donné, il va dire quelque chose... bon, on peut spoiler. Donc, on parle de son frère qui est un raté. Et lui, il va contredire cela. Et il va perdre une partie de son apparence. Donc, on devine qu'il pense que son frère est un raté. Et voilà, ça dit quelque chose sur le rapport entre les deux, sans qu'il y ait eu un long dialogue. En une idée formelle, en une idée visuelle, c'est explicite. Il y a des explications qui suivent.
Je suis d'accord avec toi et pas d'accord, parce que cette scène-là, elle est tellement mise en place que tu sais qu'il va se passer ça. C'est-à-dire que depuis le début, la relation entre les frères est un petit peu tendue. Là, ils disent, alors attention, si tu mens, tu vas te faire cramer. On va savoir explicitement que tu mens.
Mais je trouve vu qu'ils tirent la scène en longueur, on finit par oublier
Moi, ça m'a pesé.
La scène dure, finalement, où ça prête plus à rire. Et au moment où ça arrive, finalement, on a oublié.
Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait que le film s'inspire d'une partie de jeu de rôle, puisque le grand frère est fan de jeu de rôle. Et c'est rare un film qui expose ses propres règles. C'est même pas vraiment méta, parce que c'est trop innocent pour être méta. C'est-à-dire que c'est pour ça en fait qu'il le dit, le frère, c'est parce que ça fait, c'est comme si tu voyais les petits pions et trucs comme ça, mais tenus par des adultes qui sont quand même franchement roublards quand même,
oui,
et qui savent exactement mener leur truc. Donc c'est assez bizarre.
Je sais pas, moi je l'ai vu un peu comme un côté didactique de Pixar, en disant bon, les gamins ils vont peut-être pas savoir exactement, ils ont peut-être pas l'âge pour jouer au jeu de rôle, ils ont peut-être pas les codes, on va leur apprendre dans le film un petit peu. Et justement, moi ça me... Le fait que ça soit des adultes un peu roublards, comme tu dis, qui bougent ces pions-là, bah, ça m'a enlevé de la naïveté et je suis rentré dans une espèce de corde un petit peu de production qui m'a pas, qui m'a un peu déplu.
Le réalisateur, celui qui a fait Monstre,
University.
Monsters University, qui était déjà mineur et de temps en temps assez beau quand même.
Okay.
C'est-à-dire, ils sont toujours un peu, c'est toujours un peu corsetés, les productions Pixar, donc il faut toujours dénicher un peu l'originalité.
Pour en avant, faut quand même citer le fait que, contrairement à pas mal de films Pixar où tu vas suivre, voilà, c'est un groupe de personnages, mais en général tu suis un personnage et puis t'as plein de personnages qui disparaissent, là on va continuer à avoir le point de vue des autres membres de la cellule familiale, donc la mère et le beau-père, qui vont aussi avoir leur quête, avoir la manticore qui va se greffer sur la mère aussi, donc on va continuer à les suivre. Et pour le coup, moi, j'ai bien aimé ce côté où on a vraiment des personnages secondaires qui vont être développés, même s'ils ne sont pas avec les héros pendant leur quête.
Je pense qu'on a fait un petit peu le tour en avant.
C'est assez moche, quand même, il faut le dire.
C'est assez moche.
On ne l'a pas dit.
Alors, je crois qu'il y a avoir vu. Moi, j'ai trouvé ça un peu laid.
C'est pas génial non plus. En fait, c'est le cliché.
C'est ultra
de...
Les décors sont très beaux.
Je pense au niveau
des personnages sont tellement
plastiques. Au niveau des couleurs aussi, je pense. Les couleurs sont un peu ternes. Alors
ils sont dans un bleu un peu maladif. Les
c'est ça. Dans ce monde, ça aurait été mieux avoir des couleurs un peu plus flashy.
Même le design des personnages, ils n'ont pas été cherchés très loin.
Le personnage principal, c'est.
Ouais.
C'est son acteur français en fait, c'est
oui.
Thomas, c'est l'IVRS.
Mais
c'est lui, je savais pas.
J'ai eu l'impression d'avoir le même personnage de 21, 22 piges ou 18, 17, je sais pas.
Il fait un peu personnage secondaire de scène de ménage ou un truc comme ça. Un peu.
Et le grand frère, c'est Jack Black. Je sais pas si.
Le grand frère, c'est complètement Jack Black. Maintenant tu me le dis, c'est évident.
Mais c'est vrai qu'avant, j'avais l'impression que Pixar essayait de créer des personnages pour en faire des goodies qui pourraient être revendus. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas, tant ils perdent en charisme.
Là, je sais pas ce qu'ils vont vendre.
Ouais, c'est vraiment. Je suis pas sûr. Il y a pas trop de charisme.
À part peut-être les fées Hells Angels, mais.
Même
pas.
De toute façon, qui va acheter, enfin, c'est
la d'ailleurs, ça je trouvais ça un petit peu débile dans la construction de l'univers. Enfin, qui rejette la magie, pourquoi pas. Mais il y a des trucs, pourquoi les gens qui ont des ailes, ils arrêtent de voler. Ça reste quand même pratique. Donc,
je pense qu'on a perdu un moment, parce que
Non mais d'accord, mais les ailes, elles ont toujours, tu vois.
Oui, non, mais bien sûr.
Tous les personnages qui ont des ailes, ils se sont dit, bon, on arrête de voler parce qu'on a d'autres trucs. Alors qu'en fait ils peuvent.
Moi ça fait sens.
Pour moi c'est un peu bizarre.
Moi je comprends que t'aies la flemme par le non-usage.
Ah bon?
Ouais. Ouais carrément. Je sais pas, genre typiquement les tétons. On a toujours des tétons.
Non mais d'accord, mais regarde. Regarde
l'effet.
L'effet, elle se met à 15 pour conduire une moto, est-ce que c'est pas plus simple de voler par ses propres moyens?
Oui, mais c'est beaucoup plus drôle. Alors moi, c'est ça qui. ça me fait marrer. Ça, typiquement, ça fait un, c'est un truc qui me fait marrer.
Non,
ça.
La blague est rigolote, oui, tu vois. Mais dans l'univers, c'est un peu débile. Tu fais, bah, bon, au lieu de prendre 3 motos, pourquoi vous.
Bah, merci beaucoup pour En Avant. Et ce débat, on vous laisse nous dire en commentaire si jamais des faits en moto, c'est bien, c'est pas bien, on fera un petit sondage. Bisous. La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critiques, analyses, débats, quiz, coups de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.